aussi aux postes directifs dans les entreprises où les directeurs, justement, ce sont aussi les hommes. Alors, ça monte un peu la même structure.
Ah oui. Mais est-ce que, bon, il y a peu de femmes qui sont leaders syndicales, je pense en Pologne, comme il y a peu de femmes qui sont leaders politiques dans presque les trois quarts du monde, sauf quand les femmes s'organisent entre elles. Mais j'aimerais savoir si Solidarność a répondu à des revendications qui étaient surtout mises en avant par des femmes, et si non, je peux pas préciser parce que je me rends pas compte justement de quel type. Je pense, d'après ce que j'ai compris, Solidarność, qu'il a aussi essayé de répondre au niveau très très terre à terre, très quotidien, des besoins d'une entreprise, d'une communauté agricole.
Je ne sais pas, mais dans une interview où il y avait cette question justement par rapport à la participation des femmes, Wałęsa a dit, mais bien sûr, on veut des femmes, on les aime bien, on a besoin d'eux parce que ça nous fait encore plus se montrer de bons côtés. Mais c'est tellement, je veux dire, c'est tellement illustratif ça.
Est-ce que il y avait par exemple, bon, il y a par exemple une section, il y a une solidarité agricole, non? Il y a des paysans. Les paysans, ils ont formé un syndicat Solidarność agricole. Est-ce qu'il y a eu des syndicats Solidarność qui sont dans des usines de femmes, où toutes les femmes de cette usine faisaient partie de Solidarność? Est-ce que dans ce cadre-là, elles avançaient des besoins qui leur étaient propres
Sur Radio Zone ce soir, c'est la pleine lune, une radio de femmes. Tout de suite, la suite, notre émission sur les Polonaises.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai posé la même question à Gdańsk, à des gens de Solidarność. Est-ce qu'il y a eu justement des demandes qui vous ont été faites de la part des femmes d'être mieux représentées ou d'avoir des revendications particulières? Est-ce qu'on m'a répondu? Moi, je le dis d'abord comme ça, c'était oui, on a formé une commission qui s'occupe des questions de la famille, qui veut remettre en valeur la famille. Alors, j'étais d'abord assez choquée, mais en écoutant ce soir aussi ce que tu as dit sur comment les femmes réagissent. Enfin, il y a eu d'abord, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui revendiquent d'abord de pouvoir retourner à la maison, ne pas travailler. Après, ce que tu as dit, qu'il y a des femmes qui retournent à la maison, qui ne travaillent pas et qui recommencent à travailler après parce qu'il leur manque leur contexte social, je crois qu'il faut voir le tout dans l'ensemble. Je ne crois pas qu'il y ait eu de revendications qu'on pourrait appelé dans notre sens féministe, c'est-à-dire qui mettrait vraiment en avant le problème spécifique des femmes. Je crois que tout ça a été lié à la situation actuelle des femmes, la plupart qui travaillent, qui ont des problèmes concrets d'enfants, de queue et de tout ça, et qui ont commencé par faire le premier pas en demandant du temps pour ces tâches.
Że rzeczywiście, jak mówisz o sytuacji kobiety, i to właśnie może i teraz będę mówić nie tylko już o związkach, bo
Elle veut souligner que toujours dans tous les discours sur les femmes à Pologne, la femme est liée étroitement à la famille. Elle est vue dans ce contexte-là aussi dans la vie politique que par exemple le discours d'église, et que la femme n'est jamais considérée comme une personne qui travaille, qui vit, mais c'est vraiment quelqu'un lié étroitement à la famille.
Tak, i właśnie to jakoś podkreśla się, jak gdyby podkreślić znak.
Alors en gros, si on veut aider la femme, ça veut dire que il faut aider, il faut améliorer les conditions des familles en Pologne. Et si on améliore ces conditions des familles, automatiquement les conditions des femmes seront améliorées.
And just I remember that so one very important things because in Poland, aha, in Polonia, bardzo ważną rzecz Solidarność zrobiła dla kobiet, mianowicie chodzi o dodatki na dzieci, o dodatki rodzinne na dzieci.
La différence en montant d'allocation familiale entre les femmes normales, comme elle a dit, et les femmes de miliciens et de soldats. Et solidarité.
Solidarność wprawdzie nie zrównała wielkości tych dodatków, ponieważ wielkości dodatków dla żon milicji i żon żołnierzy były kilkakrotnie wyższe, ale mniej więcej doprowadziła do poziomu średniego.
Que Solidarność a essayé d'égaliser les montants des allocations familiales entre justement les femmes de miliciens, les femmes de soldats et les autres femmes. Elle n'a pas réussi à légaliser vraiment, mais elle a réussi quand même à faire cette différence plus petite.
La différence 60 zł na drugie, 100 zł, a na żony milicjantów otrzymywały około, zdaje się, że 900 zł.
Mm-hmm. Alors, par exemple, pour les premiers enfants, les femmes ont eu 60 zł, pour les deuxièmes 100. Et les femmes des miliciens, elles ont eu autour de 900.
A w tej chwili jest coś około 400 czy 500 jakoś tam.
Et maintenant, les femmes non miliciennes, donc, elles ont autour de toutes les femmes. Et miliciens aussi, elles ont moins, donc.
Non, wszystkie są równe.
Et maintenant, toutes les femmes ont 400, à peu près.
Bon, en général, sur la milice, ce n'est pas seulement les femmes qui sont concernées, mais on essaye de faire des conditions particulièrement bonnes aussi aux hommes qui rentrent dans la milice. On leur propose des salaires nettement plus élevés que le salaire moyen d'un ouvrier ou même d'une personne de la même formation, mais dans un autre travail. Un autre exemple de la même tactique du gouvernement était lorsque les typographes ont menacé de faire la grève d'impression des journaux et de la distribution. Ils ont commencé par leur donner des parts de salaire supplémentaires. Je crois que ça figure sur le nom de rations de pain ou des choses comme ça. Ils les ont payés beaucoup mieux. Ils leur ont donné des bons pour acheter des choses dans des magasins qui sont en général que pour les gens bien placés du parti, en espérant comme ça éviter qu'ils se mettent en grève avec Solidarność. Ils se sont quand même mis en grève.
Il faut rajouter encore une chose. Une des revendications qui était posée tout de suite, dès le début des grèves, en août 80, qui s'est trouvée dans la liste des 21 revendications élaborées pendant cette grève, réclamait un congé maternité de 3 ans, intégralement payé, pour toutes les femmes qui avaient un enfant.
Thank you.
une figure de femme dans Solidarité, une parmi d'autres, Anna Valentinovitch. Anna Valentinovitch est soudeuse au chantier naval de Gdansk. Elle a participé à tous les moments de lutte ouvrière à Gdansk. On l'a retrouvée en 1970, en 1976. C'est un grand leader syndical. En juillet 80, elle est licenciée quelques mois avant sa retraite. En août 80, les chantiers navals de Gdansk se mettent en grève et une de leurs revendications, c'est la réintégration de Anna Valentinovitch. Voici quelques moments de la vie d'Anna Valentinovitch.
J'ai 51 ans. Je suis née en Voligny. Quand la guerre a éclaté, mon père est parti au front. Mon frère a été déporté et ma mère est morte du cœur. J'ai été recueillie par des étrangers. À mon retour en Pologne, je me suis mise à parcourir la campagne. Je me louais. En été pour les moissons, en automne pour la vente des couteaux de cuisine que les paysans confectionnaient à partir des vieilles faux. En hiver, mes patrons faisaient clandestinement leurs gouttes, alors la nuit, je veillais sur l'alambic pour qu'ils ne sautent pas, et le jour, je transportais les bouteilles pour la vente. En échange de la vodka et des couteaux, on me donnait de la farine, des pommes de terre et du pétrole. Je trimballais tout cela chez mes patrons. Ce que j'en ai rencontré des jambons dans ma vie, ceux qui m'ont laissé manger les petits pains blancs et ceux qui m'ont permis de vivre gratuitement dans leur cave et qui m'ont donné un poêle pour cette cave. Mais le plus important, ça a été un monsieur qui m'a dit « Ne reste pas comme ça. Va au chantier naval et apprends quelque chose. Et tu deviendras un homme. » De la jeunesse à Berlin en 51. Je raconte ce congrès en détail parce que ça a été un événement important dans ma vie. Pour la première fois, je m'y suis heurtée personnellement aux mensonges et pour la première fois, mon organisation m'a dit de mentir aux autres. Mon fils est né le 7 septembre 52. Je ne dis rien de son père parce qu'il n'en vaut pas la peine. Nous n'étions pas encore mariés quand il m'a révélé son vrai visage et j'ai décidé de ne pas l'épouser. Dans le collectif de notre atelier, je représentais la Ligue des femmes. On se réunissait une fois par semaine et on décidait des punitions et des récompenses. Pour les récompenses, chacun proposait ses protégés. Et quand on en venait à mes femmes, il ne restait plus d'argent. Je protestais et je disais que c'était injuste. Une fois, on a eu 3000 zlotys à partager. On avait prévu de donner 300 zlotys à 10 personnes, mais quand on en est venu au partage, l'argent avait disparu. On l'avait réparti entre les 3 membres de la commission des punitions et des récompenses, 1000 zlotys à chacun. On m'a dit que les deux suppléants ont dû donner leur part au président qui jouait à la loterie et qui perdait. Alors pour la première fois, j'ai dit en public qu'on avait pris l'argent aux ouvriers. Le lendemain, le contremaître m'a dit en chuchotant « Madame Agnat, on a téléphoné pour vous. Si vous voulez, si jamais vous ne revenez pas, que faire du môme ?» La question qui lui était posée, à quel moment a-t-elle compris ce qu'il fallait faire ? Elle répond. Après décembre 70, je me suis dit que ça allait changer, que ce n'était pas possible, après tant de sang, que tout reste comme avant. Mais on a vu que c'était possible. J'ai entendu parler pour la première fois des syndicats libres il y a 2 ans. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai tout de suite pensé qu'avec des syndicats libres, nous serions moins désarmés devant l'arbitraire et l'ignominie. Je me suis mise à la recherche des gens qui pourraient m'expliquer tout cela. J'étais très surprise quand je les ai vus pour la première fois, parce que c'était des gens de milieu intellectuel qui voulaient nous aider, nous, les ouvriers. C'était des gens bons qui voulaient vraiment nous aider. J'en ai parlé à mes camarades du chantier et je leur ai apporté de la littérature sur les syndicats libres. Puis là, on a commencé à m'embêter. Les ouvriers n'avaient plus le droit de me parler et le chef de l'atelier a délimité le terrain sur lequel j'avais le droit de me déplacer. Du portail au vestiaire et du vestiaire à mon poste de travail. Dans l'atelier, j'avais droit au trajet entre l'entrée et la grille. Comme les toilettes étaient au-delà de la grille, on m'a fait une clé spéciale pour celle de l'atelier voisin. Chaque pas en dehors du terrain délimité était considéré comme abandon de mon poste de travail. Puis en janvier, on m'a transféré dans un autre atelier. J'y travaillais avec 3 personnes dont chacune avait une tâche. Le contremaître devait veiller à ce que je ne sorte pas, le chef de groupe à ce que je ne parle pas, et Madame Jasdia me causer de femme à femme. Ce transfert était illégal parce que ça ne correspondait pas aux termes de mon contrat. Alors j'ai fait appel à la commission paritaire. La commission paritaire a renvoyé l'affaire devant la commission d'appel au tribunal, le tribunal à la commission d'appel. 6 mois plus tard, en dernière instance, la réintégration à mon ancien poste a été décidée. Mais les semaines ont passé et personne ne respectait le jugement. Alors je me suis présentée moi-même à mon atelier, mais le chef m'a coupé la route et m'a dit de m'en aller. Le lendemain à l'entrée, 4 gardiens se sont jetés sur moi. Ils m'ont attrapé par les mains et après m'avoir enlevé mon laissez-passer, ils m'ont traîné au poste de garde. Conformément au jugement du tribunal, je venais tous les jours au travail, mais on ne me laissait pas travailler. Un jour, on m'a enfermé à clé dans le vestiaire. Le lendemain, les gardiens m'ont maintenu de force dans le poste de garde. Le 3e jour, il ne s'est rien passé de particulier, sauf que le directeur m'a déclaré que le jugement du tribunal ne l'obligeait en rien, du tout, et ainsi de suite. Le 9 juillet, les gardiens ont appelé une voiture et ils m'ont conduite au service du personnel. Là, après 30 ans de travail sur le chantier, on m'a présenté mon licenciement pour faute professionnelle grave, un certificat de travail et ma paye. Sur le certificat, j'ai lu article 52, abandon injustifié du poste de travail, alors que je venais et que je pointais tous les jours. Puis on lui pose une question sur le 14 août, c'est-à-dire le jour où la grève de Gdansk s'est déclarée, en 80. Le matin, j'étais chez le docteur. Quelqu'un a dit « c'est la grève ». J'ai regardé les grues derrière le mur, immobiles. À tout hasard, je ne suis pas rentrée chez moi, mais je suis allée chez des amis, au 40. Avant midi, une voisine est venue en courant. Le directeur vient d'envoyer une voiture pour te chercher. J'ai dit que je ne sortirais pas, qu'il n'avait qu'à venir jusqu'à la porte. J'ai sauté dans la voiture et on est parti. Midi à peine passé, je suis entrée sur le chantier. À la porte d'entrée se tenaient 2 femmes avec des fleurs. J'ai appris que les fleurs étaient pour moi. Quelqu'un m'a dit de monter sur la pelleteuse. Je suis montée et j'ai vu une foule immense, comme pendant la visite du pape. Au-dessus de la foule, j'ai vu une banderole. Nous demandons la réintégration de Valentinovits. Je me retenais de pleurer. J'ai dit merci à vous et je suis descendue. Ensuite, nous sommes tous allés dans la salle de l'hygiène du travail pour discuter. Mais la suite, vous la connaissez sûrement. À quoi bon répéter ?
Et est-ce qu'il n'y a pas des femmes justement qui luttent contre la famille, qui ne sont pas d'accord sur ce système-là, même si c'est difficile de faire autrement, enfin des femmes qui sont pas d'accord de faire des enfants, qui sont d'accord de faire carrière, ou des femmes homosexuelles qui se regroupent entre elles pour s'identifier différemment. Non, pour, tu vois, qui sont vraiment contre la famille.
Więc w Polsce, do Polski, kiedy do Polski dotarły wiadomości o...
Et toutes les nouvelles qui sont venues à Pologne, qui parlent de mouvements de libération des femmes, qui viennent surtout des États-Unis, ce sont les mouvements que les gens en Pologne prennent avec un sourire ironique. En Pologne, il n'y a pas le mouvement de libération des femmes, que c'est un problème qui est individualisé. Alors chaque femme, individuellement, si elle veut se libérer, si elle veut améliorer ses conditions, si elle veut trouver, si elle veut faire un autre choix que la famille, elle le réalise personnellement. Que le problème d'homosexualisme, par exemple, il est traité au niveau de médecine, mais pas comme phénomène social. Et déjà, si on parle d'homosexualisme, c'est surtout l'homosexualisme des hommes et non pas des femmes. Et ce problème-là est plutôt poussé dans l'underground. Si le problème là existe, c'est le problème individuel qui n'est pas vu dans le contexte général.
Est-ce que tu connais des exemples de répression face à l'homosexualité qui a pu être exhibée dans la rue ou dans un café?
W Warszawie na przykład powszechnie są znane, no ja wiem dwie kawiarnie, w których się spotykają homoseksualiści od czasu do czasu mężczyźni, o kobiety.
Elle ne connaît pas les exemples concrets de répression. Elle ne pense pas que ça a lieu, qu'elle connaît, elle, deux bistrots à Varsovie, bistrot homosexuel homme, et à Cracovie également, que les hommes, si on les voit dans la rue, les gens réagissent par un sourire, mais... Et pas plus que ça.
Et pourtant, c'est pas vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, je connais une copine qui a connu un PD qui a été foutu dehors de l'administration, enfin d'un poste qu'il avait important dans un, je sais pas, soit une entreprise ou quelque chose comme ça, parce qu'il était PD.
Są to problemy zawsze jednak bardzo indywidualne.
Elle dit que le phénomène d'homosexualisme, il est connu surtout dans les milieux artistiques, qu'il est milieu connu, donc vu par la population avec la plus grande tolérance, qu'elle ne connaît pas dans le milieu d'ouvrières ou employeurs de bureaux les cas d'homosexualisme, donc elle ne connaît pas non plus les exemples de l'oppression. Ça peut... Bon, elle admet qu'il est possible que ça existe, mais elle n'a jamais rencontré ça. Thank you.
Blanc, impérial et galactique s'impose.
Décembre 81, Jaruzelski lance la milice et l'armée contre le peuple polonais. La répression s'abat partout. Les communications sont fermées. 50 000 arrestations.
Est-ce que depuis le coup d'État, est-ce qu'on sait quel type de répression s'est abattue dans le pays, spécifiquement sur des femmes?
On a appris par la presse qu'il y a en tout cas un camp pour les femmes près de Bydgoszcz. Et on a aussi appris, bon, ce qui a été démenti ensuite par la radio Varsovie, c'est-à-dire ce que ça veut dire, qu'on a enlevé aux femmes arrêtées leurs enfants pour les mettre dans des orphelinats. On a aussi eu des nouvelles par la presse et la radio tout de suite après le coup d'État, comme quoi des femmes avaient été arrêtées avec leurs enfants, qu'elles ont passé des heures dans des cours de prison avec leurs enfants, qu'on leur a arrachés ensuite.
Un activiste dans la solidarité de Pologne a la question comment il voit maintenant les possibilités de gens, de résistance. Il m'a répondu, moi je connaissais les gens avant, je les connaissais bien, j'étais sûre, je savais sûrement comment ils vont réagir, comment ils vont se comporter. Mais jusqu'à 13 décembre, à partir de 13 décembre, je ne suis plus là et je ne sais plus parce que la situation a changé et je ne peux plus savoir. En connaissant mes copains, mes amis, mais les gens avec qui je travaillais, ça a donné un tel changement que si on n'est pas sur place, et même je m'imagine que même si on est sur place, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton voisin.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, comme anecdote, que, par exemple, devant les usines de Gdansk, on a entendu des témoignages et on a vu que les chars patrouillaient autour des usines et puis que dans la population, il y avait une partie de la population qui levait le poing contre les chars et une autre partie de la population qui venait nourrir les soldats à l'intérieur des tanks en leur donnant des sandwichs. Donc on a pu voir quand même que la population était parfois divisée.
Mais là, oui, ça peut vouloir dire deux choses parce que l'armée en Pologne, elle a un statut un peu particulier. Les Polonais, ils ont toujours eu une confiance dans leur armée. Ils n'ont pas imaginé justement ce coup-là. Oui, ils n'ont pas imaginé ce coup-là par l'armée polonaise. Pour eux, l'armée, c'était celle qui la libérait des gens qui pouvaient les occuper, des interventions étrangères. Alors les gens qui donnent du cacao, des sandwichs, des choses à l'armée, c'était entre autres, je crois, et peut-être même surtout, pour leur montrer que c'est des gens, c'est des conscrits, on dit, des appelés à l'armée, des ouvriers comme eux, des gens que, à la limite, c'est leurs voisins ou leurs parents ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour le coup qui s'est passé. Je crois que ça veut plutôt dire qu'ils considèrent que l'armée est de leur côté, ou peut l'être, vu sa composition et vu la confiance qu'ils ont toujours eue en l'armée. C'est comme, par exemple, on a raconté dans les journaux du camp de Biawa... Attends, comment ça s'appelle, près de Varsovie? Biawawenka, près de Varsovie, que les gardes du camp étaient d'abord des soldats. Mm-hmm. Et ils les auraient changés contre des miliciens après le 31 décembre, parce que les prisonniers et les soldats ont fêté ensemble le nouvel an. Ou qu'ils ont refusé de tirer, ou qu'on mettait des délinquants de droit commun dans des uniformes, et on leur tirait, la milice leur tirait dans les pieds de derrière si eux ils tiraient pas sur les ouvriers. Je crois qu'il faut pas oublier qu'en Pologne jusqu'à maintenant, d'après les nouvelles qu'on a, depuis le coup d'État, le vrai travail de répression a été fait par la ZOMO, par la milice, qui a été pendant longtemps préparée à ce travail-là, qui a toujours eu un statut particulier, qui ont dû se retenir depuis août 80, qui n'ont pas pu intervenir quand ils auraient voulu, qui ont été continuellement chauffés, je ne sais pas comment le dire autrement, mais préparés à intervenir et qui enfin sont intervenus maintenant. Et qui, paraît-il, se sont comportés pas comme des êtres humains, mais vraiment comme des... Je sais pas, assez brut à un mot, assez fort.
Que des soldats en uniforme polonais, en fait, par les Russes. Est-ce que vous avez eu des témoignages directs de ça?
Il y a eu des informations par la presse, mais qui datent d'un certain... Enfin, qui sont apparues très vite. Une information que j'ai eue vraiment par... je ne sais plus quel moyen, donc qui vient de je ne sais plus quelle source, c'était que 3 semaines avant le coup d'État, il y aurait eu un envoi de 100 000 uniformes polonaises en Union soviétique qui, paraît-il, auraient été destinés à être portés par des minorités de soviétiques qui habitent le long de la frontière et qui parlent aussi polonais. Mais effectivement, dès le coup d'État, il y a eu des témoignages, je crois à la télé, dans la presse, etc., qui disaient que des gens avaient rencontré des soldats qui ne savaient pas parler le polonais, qui parlaient le russe uniquement. Mais à part ça, il faut aussi citer les exemples de gens de l'armée, enfin, des soldats de l'armée polonaise, qui, paraît-il, dans les rues de Varsovie, changeaient de trottoir pour ne pas voir des militants qui distribuaient des tracts de Solidarność, les fameux tongs qu'on cite à Gdańsk, où la population leur collait des tracts de Solidarność et qui n'ont rien dit. Donc, tout ça pour expliquer que le rôle de l'armée est extrêmement difficile à entrevoir maintenant. On a aussi parlé d'unités qui étaient complètement enfermées dans leurs casernes, des armées de soldats qui auraient de supérieurs qui auraient été démis de leurs fonctions parce qu'ils n'étaient pas d'accord d'exécuter les ordres. C'est pas simple, je crois, le problème de l'armée polonaise.
On peut déjà maintenant voir des formes de résistance des Polonais face à cette milice, face au coup d'État. Est-ce qu'on a déjà des indices? Tu parles de tracts distribués. Quel type de réseau on peut se mettre en place avant le coup d'État et depuis le coup d'État pour lutter contre cette tentative de normalisation, entre guillemets?
C'est évidemment impossible de donner une évaluation globale de la situation étant donné que les communications ne sont pas rétablies, mais il y a des informations qui se recoupent parfois et il y a des choses qui sortent. Il y a des journaux clandestins qui paraissent. J'ai vu aujourd'hui une reproduction d'un journal clandestin de Varsovie qui doit faire une feuille recto verso, mais journal quotidien renéotypé du 17 décembre au début janvier. Donc, c'était tous les numéros qui étaient arrivés. Maintenant, on a vu des caricatures, on a vu des résolutions qui sont parvenues, soit surtout par des gens qui passaient en bateau, des marins ou passagers qui passaient de Sinouche à Ustad en Suède, qui est un des ferryboats qui a continué à fonctionner sans arrêt. On a entendu des messages venus de comités collectifs Solidarność d'un très grand nombre de villes, Stettin, Łódź, Varsovie, Wrocław, Cracovie, etc., des autres villes moins connues, et où la résistance se situe, comment elle s'organise, ça c'est évidemment plus difficile évaluer. Je pense qu'il faut plutôt parler d'un réseau, comme tu disais, plutôt que d'une organisation clandestine. Où elle se situe, on peut... Là, je crois que c'est seulement des hypothèses qu'on fait, parce qu'on sait parfois un exemple d'une usine, les exemples des mines sont bien connus. On sait un exemple de réunion clandestine dans un appartement. On connaît justement certains moyens techniques qui restent à disposition. Mais le type de résistance, on sait qu'il n'y a pas de résistance de rue, on sait qu'il n'y a pas de mouvement de masse, de manifestation, comme il n'y en a pas eu en août 80, parce que c'est trop facile de cerner une manif de rue, de cerner une manifestation de rue, de lui tirer dessus. Ça appelle quasiment la répression. Donc tout ce qui se fait actuellement, c'est plutôt par petites réunions et par diffusion. Tous les tracts que j'ai vus reproduits portent, comme dans la tradition des samizdat de tous les pays de l'Est, faites une copie et passez le plus loin. Donc, je pense que cette clandestinité, il y a eu une certaine expérience qui existe de toute la période d'avant 80, où il y a eu tout un travail clandestin qui existait, même si les gens, les principaux acteurs sont arrêtés actuellement. Le message a probablement passé, la mémoire collective a retenu ces leçons-là. Et les vieilles méthodes bien connues restent, existent, puisqu'on reçoit même des messages parfois qui viennent de l'intérieur des prisons. L'autre chose, je pense qu'il faudrait éventuellement dire, c'est que Valeza doit être soumis à des pressions extraordinaires depuis le premier jour, parce que jusqu'à présent, il n'a pas cédé d'un pouce, ce qui est, je crois que ce qu'il a salué avec, même, avec toutes les critiques qu'on peut lui faire, qu'on a envie de lui faire. Je crois que jusqu'à présent, depuis le 13 décembre, il a une attitude absolument exemplaire.
Bon, alors, il faudrait peut-être expliquer qu'est-ce que c'est ce serment de fidélité. Est-ce que vous savez s'il y a des mouvements de résistance à cette signature et s'il n'y en a pas, comment vous les... Est-ce que c'est une manière de... Est-ce que c'est aussi une résistance de signer à la nuit?
Pour ce serment, bon, il a été d'abord introduit pour les membres, les gens employés dans l'administration. Il a été ensuite étendu à d'autres secteurs. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il s'étend globalement à tous les membres de Solidarność, parce que d'une part, pas tous les secteurs sont touchés, mais d'autre part, il y a aussi des gens qui n'en ont pas fait partie, à qui on demande ça. D'autre part, sur une éventuelle résistance, je ne crois pas qu'on dispose d'informations assez précises, vu l'étanchéité des frontières, pour dire qu'il y a un mouvement particulier contre ces signatures. On a entendu qu'il y aurait eu 2000 licenciements dans les chantiers navals de Gdańsk. Je ne sais pas, c'est peut-être une supposition personnelle, mais il doit y avoir aussi des gens là-dedans qui ont refusé ce genre de signature. Ça doit être lié à la répression, étroitement lié à la répression contre tous les membres de Solidarność ou tous les militants actifs.
Johanna, tu avais un commentaire?
Je voulais juste dire que c'est un moyen de pression horrible parce que il y a les menaces directes sont si vous signez pas, on vous licencie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être licencié? Ça veut dire qu'on n'a plus aucune ressource vitale, on a la famille, les enfants. En plus, c'est pas seulement question d'argent, mais toute la distribution du bien se centralise et va être de plus en plus centralisée dans les entreprises. La vente de vêtements, la nourriture, bon, les bons pour la nourriture, on les reçoit directement dans son entreprise. Donc, si tu ne travailles pas, tu es foutu. Et si tu ne signes pas, tu ne travailles pas, donc tu es foutu, tu es pas seul au monde, tu as ta famille et les enfants. Il y a encore un problème qui se pose, est-ce que ce genre de signature est justifié, je veux dire, légalement quelque part? Est-ce qu'on ne peut pas les signer tout simplement en admettant que l'état de guerre qui existe en Pologne maintenant, c'est un état qui n'est basé sur aucune... justice qui est complètement illégale? Alors à ce moment-là, dans cette situation, tout ce que j'ai fait, c'est fait sur la pression et aucune, de toute façon, à aucune base légale. En discussion avec une copine qui vient de Pologne, on a parlé de ça ainsi, que les gens qui ont été avant août 81 avant le commencement du mouvement de Solidarność. 80. C'était la période de démoralisation totale du peuple. Et plus personne croyait à rien, plus avait aucune valeur. Et on se permettait de tous les vols, corruption, tous les actes de corruption, et on s'est foutu de tout. Et tout d'un coup, à partir de août 80, et les gens ont senti la possibilité de retrouver leur morale, leur moralité, de retrouver la vérité quelque part et de pouvoir l'exprimer. Et ça a été tellement fort et tellement important que maintenant, il est difficile d'enlever ça aux gens. Je ne sais pas si c'est clair. Que les gens ne veulent plus tricher. Ils veulent continuer de faire les actes légaux, justes, vrais, après ce qu'ils sentent, et s'exprimer ouvertement.
Oui, moi, je voulais rajouter qu'en fait, la signature, ou plus exactement la non-signature avec les conséquences que ça pourrait avoir de cet acte d'allégeance, c'est aussi se couper de toute la base d'action. Parce que si on peut penser qu'une grosse partie de l'organisation, de ce qui pourrait s'appeler une résistance, va se faire dans les entreprises, si t'es licencié, t'es aussi coupé de ta base sociale.
Moi, je voulais vous demander comment vous ressentez, en fait... disons pas complètement l'indifférence, mais en tout cas le manque d'action de la part des gouvernements d'Occident, alors qu'ils auraient plein de moyens de faire pression sur Jaroulevski, et qu'en fait ils les utilisent pas sur le gouvernement, sur les putschistes actuels. Mais savoir comment vous ressentez-vous d'une part en fait cette passivité occidentale. C'est quand même assez inquiétant ou paradoxal que ce soit par exemple le pape qui prenne des... qui, disons, réagissent d'une manière encore plus forte par rapport justement au serment de fidélité que doivent faire les travailleurs. Qu'on leur fait faire ces serments de fidélité par force, qu'on les oblige au travail 7 jours sur 7, etc. Alors que, bon, il y a tous les droits internationaux qui sont contre et puis qu'il n'y a aucun gouvernement qui s'empresse de le redire.
Je voudrais répondre un peu sur la question concernant l'Église et les gouvernements étrangers, tout en disant que c'est une position personnelle partagée avec certains et certaines, mais que c'est... Bon, je dis ça en tant que non-polonaise et que participante à un mouvement social ici, mais pas là-bas. Sur le rôle du pape et de l'Église, je crois que c'est un rôle extrêmement important, extrêmement clé. C'est une base possible d'action... d'action clandestine, de regroupement pour Solidarność, mais que ça a aussi un autre côté, c'est que l'Église polonaise ou l'Église, le Vatican, l'appareil de l'Église catholique ne verrait peut-être probablement pas d'un mauvais œil la création de syndicats contrôlés par cette même Église. Et que ça, je crois que c'est un processus qui risque d'être dangereux dans la mesure où le gouvernement polonais pourrait accepter un compromis de ce type-là, ce qui, à mon avis, nierait une bonne partie des valeurs d'autonomie, d'autogestion, d'indépendance, de Solidarność, et une bonne partie des valeurs proprement syndicales. Quant à la position des gouvernements occidentaux, certes, la plupart ne font pas grand-chose, mais c'est bien évidemment parce qu'il n'y a pas beaucoup en Occident de gouvernements qui aient pris le parti des travailleurs et qui soient favorables aux syndicats, même s'ils acceptent certaines règles du jeu. C'est avant tout des États qui se défendent eux-mêmes, qui reconnaissent donc d'autres États, quel que soit leur statut, qui ont tout intérêt à ce que la Pologne règle ses dettes, à ce que le calme y règne pour que le calme règne chez nous, à ce que l'ordre et la normalisation se fassent dans les meilleurs termes possibles, et qu'il n'y a pas eu beaucoup de gouvernements qui, autrement que par sentimentalité ou par antisoviétisme, aient salué l'apparition de Solidarność et ses activités ou lui apporté une aide quelconque. Malheureusement, cette position un peu faible par rapport à Solidarność et à la répression dont les militants sont actuellement l'objet, on la retrouve aussi chez pas mal d'autres gens. Nous qui avons été actifs depuis l'automne 1980 pour la défense et la faire connaître Solidarność en Suisse ou ailleurs, à l'étranger, pour essayer d'augmenter les échanges, de fournir des matériels, de faire des collectes, nous sommes heurtés pendant un an et demi à une grande part d'indifférence, à une faiblesse dans le soutien, à une série de questions sur est-ce que c'est vraiment des socialistes, est-ce que c'est vraiment des gens qui veulent travailler, est-ce que si, est-ce que ça, et une tiédeur qui contraste très très nettement avec la réaction d'horreur et à la fois de soutien qui s'est manifestée après le 13 décembre. Le test pour nous en a été les collectes, où depuis le 13 décembre on a récolté des milliers de francs, tandis qu'auparavant on avait récolté moins pendant un an et demi. Je ne dis pas ça pour critiquer ce mouvement spontané, mais je pense que c'est quand même souvent triste de remarquer qu'on soutient plus facilement des victimes et qu'on porte des morts en étendard.